MM Radio. MM Radio.
Bonjour à tous, je suis Angela Puti. Merci de nous écouter dans ce nouveau lunch show sur MM Radio. Au sujet des news, Facebook qui lance une version de Messenger pour les enfants, Nike qui s'adapte aux besoins des femmes sportives musulmanes, le point film et série, nos bouts de lecture, les plans de la semaine et bien d'autres. Avec nous pour en discuter, Bertram Durand, fondateur de CNPG Conseil, un cabinet d'aide au recrutement pour les entreprises. Et puis Élise Magnin, fondatrice de mesvoisins.fr, qui a pour objectif d'aider les habitants de quartier à reconnecter. Comment allez-vous ?
Bonjour.
Vous allez bien tous ?
Très bien.
Bonjour,
ça va ? Les invités sont de plus en plus timides à dire bon, je vais bien. À moins que vous n'allez pas bien.
Non, non, on va très bien.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va commencer par la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur, Bertram ?
Bah écoutez, moi, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle.
Ah mince !
C'est une mauvaise nouvelle qu'on peut transformer en bonne nouvelle.
Ah, bon,
vous avez entendu que nous avons un très mauvais classement au niveau de l'éducation.
Oui.
Les enfants ne savent plus lire.
Oui.
Et donc ça, c'est une mauvaise nouvelle, effectivement.
Mmh. Écrire aussi.
Et je pense que la bonne nouvelle serait de transformer ça et de faire en sorte de réussir l'éducation des enfants dès le début avec des aides à l'écriture, je dirais, qui permettraient à ces enfants d'écrire.
Oui. Vous avez des idées ?
Alors,
une au moins une ?
On a des idées. Une des idées, c'est utiliser la graphothérapie.
Ah, voilà, j'en étais sûr.
Voilà.
C'est ça que vous allez venir.
La graphothérapie, qui est la rééducation de l'écriture.
Ouais, ouais.
C'est une partie, je dirais, de l'acte d'écrire.
Ouais. C'est vrai, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est vrai que le côté digital, etc., nous, quand on se remet à l'écriture, oh là là, on sent qu'il y a des choses à retravailler pour tout le monde.
Ce serait dommage quand même qu'on arrive à un moment où on ne sache plus écrire.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est évident.
Exact. Élise, votre bonne nouvelle ?
Alors, ma bonne nouvelle, elle vient du nord de l'Europe, de Suède, où ils viennent de passer une loi, en fait, pour encourager les gens à réparer les objets. Ils ont décidé de baisser les impôts. Donc, ils sont partis du constat qu'aujourd'hui, quand notre bouilloire, notre grille-pain, nos chaussures sont cassées, on a tendance à rapidement les jeter et en acheter des nouvelles.
Ouais.
Parce qu'en plus, des fois, c'est bizarre, mais ça coûte moins cher
de faire
comme ça.
C'est vrai.
Et du coup, ils ont décidé de toutes les réparations, que les impôts soient moins chers pour encourager les gens à nouveau réparer et moins acheter.
Ma bonne nouvelle, elle concerne le magazine Time qui prend le parti de célébrer pour son numéro spécial Personne de l'année. Je ne sais pas si vous avez vu. Au lieu d'une personne, les femmes et hommes qui ont brisé le silence sur les actes d'harcèlement sexuel. Mmh. Aussi bien à Hollywood avec Ashley Judd, mais aussi en politique avec Adama Yiwu, dans la musique avec Taylor Swift qui avait porté plainte contre un DJ qui lui avait pincé les fesses, dans les affaires avec Suzanne Fowler contre Uber et bien d'autres, ainsi qu'une femme de dos représentant celles qui ne sont pas assez connues pour que leur cas soit assez traité dans les médias. Donc voilà, bonne nouvelle, vous trouvez, non ?
Oui, c'est courageux aussi.
Ouais. Ouais, c'est courageux et puis c'est un bon coup de pied aussi à Donald Trump avec ses petits tweets là. Oh, on a failli me considérer comme personne de l'année, mais j'ai dit non.
Bien sûr.
Si on pouvait lui couper
c'est
son tweet.
C'est plus positif.
C'est ça. Exactement. On va commencer avec les news. Alors, le service Xulu Digital Coach de la start-up française Xulu arrive chez Orange. Est-ce que vous connaissez Xulu ?
Non,
pas du tout.
Moi non plus,
je ne connaissais pas. Bon.
On va apprendre.
Proposé à présent pour les clients Orange en option et un nombre illimité d'appareils par foyer, Xulu est un coach numérique qui va aider les enfants et adolescents à développer des usages responsables des appareils connectés et des applications, les permettant ainsi de s'auto-réguler et de prendre en charge leur vie numérique. Alors, les enfants vont pouvoir suivre sur l'app Xulu Digital Coach leurs usages en temps réel, se comparer aux autres du même âge et recevoir les notifications des conseils du coach pour optimiser leur temps passé sur les appareils. Alors, les parents auront, eux, accès à l'application Xulu Parents qui va les aider à comprendre et à accompagner leurs enfants dans leur vie numérique. Alors, Xulu constate, après 30 jours d'utilisation, une baisse du temps de consommation de 20% des enfants sur leurs appareils. Voilà, premier mois offert chez Orange, puis l'option Xulu Digital Coach vous coûtera 3,50€ par mois sans engagement. Bonne idée, vous trouvez ?
Oui.
Ouais. Vous prendrez. Vous avez des enfants, Bertram ?
Non, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des enfants autour de moi.
Vous leur conseillerez cette application ?
Un peu trop jeune.
Élise, qu'est-ce que vous pensez de cette application ?
Oui, c'est forcément une bonne idée de permettre aux parents de mieux suivre ce que leurs enfants font sur leur portable et de mieux comprendre.
Ouais. Au lieu de tout de suite, quand on ne sait pas quoi faire avec ses enfants, ou les occuper, mm-hmm. on leur donne une tablette. Ou avant, c'était on allumait la télé, on ne savait pas ce qui se passait. Mm-hmm. Même si on met Disney, on ne sait pas non plus quel dessin animé est devenu violent aujourd'hui. Je pense que c'est vrai, c'est une bonne idée de les aider si tôt à prendre de bonnes habitudes.
Oui.
Donc voilà. En parlant d'applications pour jeunes, hein, notez que Facebook lance Messenger Kids pour les moins de 13 ans, étant interdit d'accès à Facebook par les restrictions du site. Alors l'application proposera des communications sécurisées et l'accord des parents à l'inscription. Alors si un enfant souhaite ajouter un copain de classe par exemple, les parents devront être d'accord en amont, cela afin d'éviter les étrangers avec de mauvaises intentions. Bonne idée également ?
Bah oui, parce que j'imagine que les enfants utilisaient sûrement Facebook avant. Et,
ah oui, même, vous pensez qu'ils mentaient sur leur âge ?
C'est possible.
Moins de 13 ans quand même. Hein.
Mais en tout cas, c'est bien qu'ils aient une application juste pour eux. Et,
ouais, je sais pas. Est-ce que c'est nécessaire ? Il y a tellement de nouvelles applications pour les enfants aujourd'hui. Est-ce que c'est nécessaire de, les faire rentrer si tôt dans un monde d'adultes et mettre des restrictions ? Je sais pas.
Je crois que de toute manière, on y va. On n'aura pas le choix. La digitalisation, elle est partout maintenant. Ouais. Et les enfants seront beaucoup plus aptes que nous, et ainsi de suite. Comme ça.
Vous pensez que c'est une bonne idée ?
Je pense qu'on ne peut pas faire autrement.
D'accord. C'est une obligation dans le sens où les enfants vont passer des restrictions pour utiliser l'application. À moins de 13 ans déjà ?
Très rapidement. Aller vers la digitalisation de la société, on le voit.
Ouais, mais Facebook, Messenger, c'est un bon moyen de les faire rentrer.
C'est sûrement un bon moyen de fidéliser les enfants. Très
c'est surtout ça, plutôt, je pense aussi. Alors, côté sport, après l'avoir annoncé il y a quelques mois, Nike lance officiellement dans le monde le hijab haute performance pour les athlètes professionnels. Après l'avoir testé pendant plus de 2 ans à différents athlètes musulmanes qui s'accommodaient de hijab fait maison et pas du tout adapté pour la compétition et la performance, Nike a travaillé en collaboration avec elle afin d'améliorer le prototype suite à leurs retours et commentaires pour créer un vêtement plus léger, doux, discret, respirant, avec un meilleur ajustement et qui permet d'entendre les arbitres, parce que c'était le problème, parce que le hijab n'était pas adapté et du coup ça causait des problèmes pendant les compétitions pour certaines athlètes. Alors le voici, le hijab dans une jolie boîte. On ouvre le packaging et puis vous avez une petite note, une jolie petite note de Nike en anglais, je vous la laisse et je vais la traduire pour vous. Pour ceux qui brisent les stéréotypes et redéfinissent les attentes, qui rivalisent, qui se battent, qui gagnent pour le sport et pour vous, montrez au monde ce que vous valez.
Ah,
voilà,
c'est bien.
Ça c'est une bonne note signée Nike.
Ouais.
Encouragez au sport. Et puis à l'intérieur, vous avez deux modèles. Voilà, je vous passe le modèle gris-bleu, Bertram, et je vous passe le modèle noir, Élise. Voilà. Bonne texture, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt léger aussi.
Oui.
Je vais pas vous demander de le porter.
Non, ça ne m'irait pas. Je ne sais pas que j'ai du mal.
Donc là, ça s'appelle couleur obsidienne. C'est une espèce de bleu. Bertram.
En fait, c'est très léger.
Voilà, exactement, très léger. Et puis vous voyez les petits points pour, la respiration aussi.
Exactement. C'est étonnant.
Voilà.
Vêtements techniques.
Ouais. Le Nike Pro Hijab est donc déjà disponible dans les tailles XS et S. Et ici, vous avez les tailles M et L, donc c'est moyen et large, chez une sélection de distributeurs en Amérique du Nord, en Europe et au Liban. Alors, les coloris blanc et gris pâle seront disponibles dès janvier 2018 sur Nike.com et auprès d'une sélection de distributeurs dans plus de 20 pays. Qu'est-ce que vous en pensez, cette idée de créer un hijab pour les athlètes sportifs musulmans? C'est comme si Nike affirmait quelque chose, prenait un parti du coup.
C'est agréable au toucher aussi, c'est très agréable.
Mais plus le côté musulman, qu'est-ce que vous en pensez pour les femmes musulmanes? Parce que certains disent les femmes doivent faire du sport.
D'inclure tout le monde, de plus...
Non, c'est une bonne idée, il n'y a pas de raison que les femmes musulmanes aient de plus de problèmes que les autres femmes du monde à porter quelque chose.
Ouais, donc là, pratique. Des modèles différents, et puis en plus pour la compétition. Et puis du coup, on les verra un petit peu plus avec des médailles, espère. On va commencer la partie interview avec Bertram Durand. Vous êtes le fondateur de CNPG Conseil, un cabinet qui aide les entreprises dans leur processus de recrutement. Et vous avez également créé CNPG Formation, un institut de formation en sciences humaines. Alors, quels sont les défauts des processus de recrutement en entreprise aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, nous sommes en pleine phase d'essai de digitalisation. l'évaluation, des processus d'évaluation.
D'accord.
Alors il y a un danger évident, c'est que l'homme, on ne souhaite pas que l'interview soit totalement digitalisée, que les processus d'évaluation de l'homme soient uniquement basés sur des algorithmes, sur le big data, sur des outils informatiques, et que l'évaluation bienveillante d'un chargé de recrutement ne puisse pas avoir lieu anymore plus.
D'accord.
Ça, j'allais parler en anglais.
Et donc, quels sont les risques d'un mauvais profil recruté dans une entreprise ?
Le risque d'un mauvais profil recruté, c'est que cette personne ne se sente pas bien dans son poste, premièrement.
Ouais.
C'est le premier grand danger.
Ouais, ça, c'est du côté de la personne
candidat,
recrutée.
Hein, c'est aussi le problème de l'entreprise qui va devoir à terme se séparer de ce candidat.
Tout à fait. Repartir au début dans le processus de recrutement.
Et aussi de l'équipe qui accueille ce candidat dans l'entreprise, parce que si c'est un candidat qui ne va pas fonctionner correctement dans le groupe, ça va poser problème au groupe aussi.
Ouais.
Et donc, il faut mieux, dès l'entrée d'une candidature possible, dans un processus d'évaluation, orienter cette personne vers un autre poste si celui-ci ne lui convient pas.
Ouais. Donc, quand on recrute, on pense de façon globale. On pense poste, on pense équipe, on pense entreprise, on pense objectif.
Voilà, c'est l'objectif.
Ouais. Pourquoi le retour du graphotest en complément des tests psychométriques de personnalité d'aptitude ?
Il n'y a aucun outil qui puisse donner une réponse à 100%.
Bien sûr. Hein.
L'objectif, c'est de réduire le risque d'erreur. Mmh. Et aujourd'hui, la plupart... des processus comprennent essentiellement l'entretien, ce qui est normal, l'interview avec le candidat, mais aussi des tests psychotechniques et aussi une grapho. Je pense qu'il faudrait, pour réduire le taux de risque d'erreur, faire en sorte que la grapho, le graphotest, soit inclus dans le processus de recrutement à part égale avec les tests psychotechniques.
Pour tout type de recrutement ?
Pour tout type de recrutement, essentiellement pour les cadres, parce que naturellement, quand on n'a pas eu suffisamment l'habitude d'écrire, la graphologie est moins applicable.
Tout à fait, exactement. Alors, CNPG Conseil est leader en France sur le marché de l'évaluation par la graphologie. Vous avez une trentaine d'années d'expérience et vous proposez à ce jour 5 formules de graphotest.
Oui, tout à fait. Alors, l'essentiel, c'est le terme graphotest, qui est une étude qui répond bien aux attentes de l'entreprise.
Ouais.
Il y a aussi des études plus légères, destinées à du personnel non cadre. Ça peut être des commerciaux débutants. Il faut savoir que, par exemple, la graphologie est très utile dans le recrutement de personnes qui viennent juste d'obtenir un diplôme.
D'accord.
Et pour lequel il n'y a pas de passé professionnel réel.
Okay.
Et dans ce cas-là, vous avez plusieurs candidats qui ont pratiquement la même formation.
D'accord.
Et il faut pouvoir les départager.
Ouais.
Et ce qui départage ces personnes, c'est les compétences, bien évidemment, mais surtout la personnalité.
Vous pouvez analyser nos écritures,
alors,
par exemple, ou pas ?
Alors,
c'est compliqué.
Normalement, nous ne faisons pas ce genre de choses dans des missions. Pourquoi ?
D'accord.
Parce que notre syndicat professionnel ne le permet pas.
Ah.
Voilà. Nous
ça
travaillons dans un code de déontologie bien précis. Il y a une norme AFNOR aussi qui régit l'utilisation de la graphologie en matière d'évaluation. Mm-hmm. Donc tout cela, nous nous tenons aux obligations professionnelles.
Donc ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas juger une personne tout de suite à l'écriture. Il y a
C'est tout un processus.
Voilà,
Il ne faut surtout pas imaginer qu'une étude graphologique, c'est comment on fait sa barre de thé ou quelles sont la qualité des jambages.
Voilà.
C'est un diagnostic complet qui comprend de nombreux éléments et qui permettent éventuellement de faire un pronostic précis.
Par exemple, qu'est-ce que vous jugez dans l'écriture ?
Alors tout.
Ouais.
La mise en page, la hauteur des lettres.
D'accord.
Enfin, c'est un tout qui fait que on peut arriver à une évaluation.
D'accord.
Alors, si vous me demandez ce que l'on peut faire, déterminer,
oui.
Alors c'est le graphotest, je vais vous montrer un exemple.
Ouais.
Voilà ce que peut recevoir une entreprise.
D'accord.
D'accord.
Mm-hmm.
Voilà. Et là, vous avez 3 paragraphes.
D'accord.
Vous voyez.
Personnalité et caractère, aptitude intellectuelle,
voilà.
Le candidat par rapport au poste, et
voilà.
Puis vous avez derrière.
Et puis ensuite, il y a un graphique avec les différentes. Caractéristiques de la personnalité.
Méthode, faculté d'innovation. Et
voilà.
Toi, dans tout ça, ambition,
voilà.
Ça va, dans l'écriture.
Dans l'écriture. Alors, il faut savoir que À la différence des tests psychotechniques,
ouais.
Un graphologue travaille non seulement avec le spécimen d'écriture, mm-hmm. mais avec le curriculum vitae et aussi le profil de poste.
Tout
donc, les résultats de l'étude graphologique collent exactement à la demande du client et de l'entreprise. Le chargé de recrutement a trois outils. Il a l'entretien, mm-hmm. la grapho et les tests psychotechniques.
D'accord.
Et avec ça, il doit faire une synthèse.
Mm-hmm. D'accord. Ouais. On a parlé tout à l'heure de cinq formules de graphotest. Quelles sont lesquelles?
Alors, on peut, admettons que vous receviez un nombre relativement important d'écritures et de candidatures, manuscrites, bien évidemment. Mm-hmm. On peut faire un premier pré-tri en classant les candidats par ordre d'intérêt par rapport au poste.
Oui.
Et puis ensuite, on peut faire des études un peu plus détaillées, jusqu'à une étude psychographologique. Qui comprend des éléments psychologiques pour déterminer, par exemple, la compatibilité entre deux personnes.
Ouais, d'accord. Ouais. Combien de temps dure le test ?
Alors, une étude graphologique est rédigée généralement par un graphologue entre une demi-heure et une heure.
D'accord, ça c'est durant le moment de l'interview. Hein.
Alors non, ça, l'interview dure le temps, c'est pas le graphologue qui fait l'interview.
Bien sûr, bien sûr. Hein,
voilà, un entretien d'embauche devrait normalement durer au moins une heure.
D'accord.
Mais beaucoup de personnes...
Ouais, ça dure moins longtemps, hein, en général.
Malheureusement,
20 minutes, 30
malheureusement.
Minutes.
Mais pour bien saisir les particularités d'un candidat, on se doit de lui donner du temps pour qu'il s'exprime et qu'il se vende.
Ouais.
Et une heure me semble quelque chose de nécessaire.
Donc on fait l'interview et après on passe au graphotest.
Et au test psychotechnique éventuellement.
D'accord, ok. Donc suite à notre sondage du Lunch Show, 33% de personnes accepteraient un graphotest pour un entretien et 67% ont répondu qu'ils refuseraient un graphotest. Est-on obligé d'accepter un graphotest?
On n'est jamais obligé d'accepter. De toute manière, il est convenu avec l'entreprise doit de donner les résultats de l'étude si le candidat le demande.
D'accord. Mais est-ce que, par exemple, si on met une annonce, est-ce qu'on doit inclure qu'il y aura un passage d'un graphotest?
Alors, quand vous demandez une lettre manuscrite aujourd'hui, généralement, il est compris que c'est il y aura une étude graphologique.
Ah bon? Mais il faut quand même le préciser, non?
Aujourd'hui, on ne le précise pas,
d'accord.
Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire, c'est que les entreprises reçoivent une candidature par mail, tapée à la
machine,
par
en
la
général,
machine, et c'est au moment de l'entretien que l'on demande, suite à l'explication du poste au candidat, on va lui demander de faire une lettre de motivation de sa bonne compréhension du poste et de ce qu'il attend.
D'accord. Mais est-ce que l'entreprise est obligée de dire, voilà, il y aura un graphotest ou c'est...
Oui, mais généralement, le candidat que nous recevons ne dit jamais non. Il est intéressé parce qu'il va avoir des résultats et généralement c'est intéressant, les résultats de l'analyse graphologique sont souvent jugés très intéressants par le candidat.
D'accord, super. Bon, toutes les entreprises ne peuvent se permettre d'utiliser ce système. Alors, quel type d'entreprises font appel à vous?
À tout type d'entreprise.
Ouais.
Il n'y a pas d'entreprise qui se refuse à utiliser l'outil graphologique si nécessaire.
Ouais.
Parfois, il y a un doute sur une candidature. Mm-hmm. On a reçu le candidat, on lui a fait passer des tests. Les tests ne sont pas bons. Mm-hmm. On demande un graphotest à notre cabinet.
Ouais.
Et il nous arrive de faire en sorte de dire à l'entreprise, mais non, ce candidat est très bon.
D'accord.
Et vous pouvez poursuivre le processus d'évaluation
et
de recrutement.
Et le résultat, après, dans l'entreprise...
Il y a souvent des rattrapages que nous sommes amenés à faire sur des candidatures qui, dans un premier temps, ont été mal jugées au niveau de l'entretien.
D'accord.
Parce qu'il y a de très bons candidats qui ne savent pas se vendre.
Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, et puis ils sont paniqués, le stress,
ça. Et la grapho, il n'y a pas d'élément de stress quand on fait, quand on écrit une lettre.
Ça dépend.
Moins.
Ça dépend. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Vous utiliserez le graphotest, vous, pour recruter, Élise?
Pour recruter, je ne sais pas, mais je trouve ça intéressant. Je serais plus curieuse de savoir qu'est-ce que le graphotest dirait de moi.
C'est clair, là j'ai envie. Là. Est-ce que, juste question perso, est-ce que vous utilisez, enfin, pas le graphotest, mais est-ce que vous jugez parfois des personnes de votre entourage selon l'écriture, sans le faire exprès? Bien entendu, vous êtes tellement habitué, mais...
Oui, tout à fait. Oui. Mais en fait, il faut savoir que le graphotest n'est qu'un outil parmi d'autres pour évaluer. Et quand nous faisons du recrutement, des prises en charge complètes de missions de recrutement, on reçoit le candidat, bien évidemment, en face à face. On fait passer des tests psychotechniques. On n'a rien contre les tests psychotechniques. Encore faut-il qu'ils aient eu une validation sérieuse, parce qu'il y a des tests qui sont vendus sur le marché. Il y a pléthore de tests aujourd'hui.
D'accord, par exemple.
Il y a toutes sortes de tests. Vous avez 200 à 300 tests de personnalité, de compétences, ainsi de suite. Et le responsable d'entreprise, le chargé de recrutement, a parfois beaucoup de difficultés à choisir le bon test et celui qui lui convient.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, il faut d'abord savoir choisir ce test et ensuite faire appel à la grapho. Et c'est seulement avec ces trois éléments qu'on arrive à faire une synthèse de l'intérêt de cette candidature par rapport au poste.
Ça vous est déjà arrivé que des personnes envoient des lettres de motivation que vous devez juger en graphologie et que ce soit l'écriture de quelqu'un d'autre?
Alors, bien évidemment, c'est pas souvent le cas. Ça peut l'être.
Bien sûr.
C'est arrivé, effectivement. Bon, là, c'est triché.
Bien sûr.
Au même titre que tout. Et ça se décèle un jour ou l'autre dans l'entreprise. Parce que quelqu'un qui envoie une lettre de candidature écrite par sa femme, c'est pas très intelligent.
Mais du coup, il est déjà embauché et trop tard.
Oui, mais. Si c'est découvert, c'est une raison de licenciement sur le champ.
C'est clair. Voilà. Alors, les informations pour justement utiliser vos méthodes, c'est cnpgconseil.com. Combien coûte vous embaucher?
Un graphotest, par exemple, coûte 145€ hors taxes, d'accord. Une prestation de recrutement, une prise en charge complète d'une mission de recrutement, généralement les tarifs varient entre 15 et 30% de la rémunération annuelle globale du candidat.
D'accord, ok.
Voilà.
Super. Beaucoup de gens utilisent le graphotest aujourd'hui ?
Beaucoup.
Beaucoup d'entreprises ?
Beaucoup.
À peu près combien ? 100%
bah écoutez, nous faisons pratiquement 40 à 50 études par semaine d'études graphologiques.
C'est énorme ! Waouh !
Pour différentes entreprises.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du graphotest, Élise ? En entretien ? Vous accepteriez-vous un graphotest si on vous pourrait... Bon, là, vous avez vos entreprises, mais si, je ne sais pas, on ne sait jamais à l'avenir...
Oui, je pense. Je pense effectivement le recrutement, c'est toujours une phase délicate et si ça peut aider en complément quand on a vraiment un doute sur un candidat, même si effectivement ça remplacera jamais le feeling du contact
en entretien. C'est très important.
Mais c'est vrai que ça, si ça peut aider un peu...
Mais il faut savoir que l'entretien est aussi sujet à question parce qu'on projette. Il y a des phénomènes de projection et on peut se tromper aussi, je dirais, sur... un candidat qui a une bonne gueule, je dirais, qui a l'air sympathique, gentil, il n'est pas obligatoirement très efficace
tout
dans son travail.
C'est vrai. C'est aussi au recruteur de mettre en condition l'entretien.
Un travail complet. Et le danger, effectivement, de cette digitalisation à outrance qu'on semble nous annoncer, c'est-à-dire utiliser des algorithmes, faire appel au big data, utiliser des tests sans que le candidat ait eu le temps de voir l'entreprise, je crois que c'est un grand danger. Il faut véritablement faire très attention à ce niveau-là.
C'est une bonne chose si, par exemple, une entreprise dit « Est-ce que vous accepteriez de passer un graphotest ?» et une personne dit « Non, ça serait bon pour l'entretien ou pas ?»
Effectivement, ça serait bizarre parce qu'on aurait l'impression qu'il a envie de cacher quelque chose.
D'accord, ok. Merci pour ces informations, Bertram. On va continuer avec les news. Résultat d'une autre étude, pas la vôtre, d'une enquête réalisée par OpinionWay, présentée par les partenaires des entrepreneurs Ulule et BNP Paribas sur la relation entre les jeunes et l'entrepreneuriat. Alors, je vais vous faire le sondage et nous allons comparer vos réponses aux résultats de l'étude réalisée auprès des 18-35 ans qui vise à comprendre les aspirations et les attentes de la jeune génération. Alors, selon vous, combien en pourcentage songent à créer leur entreprise ?
Plus qu'on ne pense, dirais.
Mais combien en pourcentage ?
Je dirais dans les diplômés, je dirais au moins au moins 30%, sinon plus.
Et vous avez dit 35, ouais.
35.
Eh bien, 54%.
Ah. C'est, bah, c'est, chose, bien. Hein, c'est une bonne chose,
hein,
c'est très
bien. Ouais.
Vive les startups.
Exactement. Comme quoi, il y en a qui n'ont pas, ouais, pas encore peur de créer, ouais, leur entreprise,
ouais, bah, c'est bien,
malgré tout ce qu'on dit.
Ouais. Ouais, ouais.
Combien, pour les hommes et les femmes, hein, mm-hmm, déclarent être attirés par l'entrepreneuriat?
On dirait 70%.
Pour les hommes?
Ah, il faut séparer.
Hommes et femmes, ouais.
Peut-être aujourd'hui, à cause des forces sociales, les femmes un petit peu moins. Mm-hmm. Elles aimeraient bien, mais elles n'osent pas.
Ouais.
Je dirais peut-être 30 ou 40% des femmes aimeraient bien, ouais, pouvoir faire, ouvrir un magasin, mm-hmm, ou faire quelque chose. Mm-hmm. Nous le voyons beaucoup. Ouais. Dans nous faisons des formations en sciences sociales,
oui,
pour devenir sophrologue, mm-hmm, pour devenir coach.
D'accord.
Et beaucoup de femmes,
ouais,
beaucoup de femmes,
ouais,
souhaitent ouvrir un jour un cabinet.
D'accord.
Et l'avantage, c'est qu'on peut ouvrir un cabinet dans son village, mm-hmm, servir la, c'est communauté. Voilà.
Ouais. Et vous, Élise, parce que Bertram a dit 30-40, c'est ça, hein?
Oui.
Ouais. Ça pour
je
les femmes.
Suis mauvaise avec les chiffres, mais je dirais aussi une tendance hein, peut-être un peu moins
pour les, femmes.
Les femmes et plus pour les hommes.
Eh bien, vous avez raison. C'est 61% pour les hommes et 47% pour les femmes.
Ouais.
En effet, c'est votre réponse. L'explication, du moins, était la bonne, c'est ça, Bertram. Combien d'entre eux considèrent les impacts environnementaux et sociétaux de leurs futures activités, selon vous?
Question difficile.
Ouais. Entre tout ce qu'on dit en politique, oui, et tout ce qui est vraiment pris en compte.
Oui. Ben, jusqu'à maintenant, en France, on avait peur de prendre des initiatives,
ouais,
parce qu'on ne savait pas très bien comment les choses allaient tourner.
Ouais.
Et on se disait, il y a un contexte fiscal qui change tout le temps.
Ouais.
Je crée une entreprise aujourd'hui, est-ce que demain je serai dans les mêmes conditions? Voilà.
Ouais.
Il y a quand même une tendance aujourd'hui,
ouais,
de dire on fixe les règles, mm-hmm, et on s'y tient.
Ouais.
Et je pense que c'est très important.
Ouais, mais c'est surtout se dire que j'investis mon entreprise dans l'écologie, etc., dans, mm-hmm, mon environnement pour la Terre, parce que,
oui,
j'y vis aussi,
oui,
du coup.
Oui.
Mais qu'est-ce que j'y gagne, du coup? Et les gens, enfin, c'est pas un investissement où, oui, on veut avoir un retour personnel ni dans l'entreprise, mm-hmm, mais, mm-hmm, global. À votre,
oui,
avis, alors combien en pourcentage?
Alors ça, je sais pas répondre.
30%.
Eh bien, c'est bien plus, c'est 82%.
Ah, c'est très bien.
C'est fou, hein?
Oui.
Comme quoi.
C'est une bonne nouvelle.
Tant mieux.
Et vous considérez cette action dans votre entreprise, l'engagement environnemental et sociétal?
Bah, bien évidemment.
Ouais. Bah oui, forcément. Hein. Quelle question.
Dans votre cas, c'est tout à fait évident.
C'est tout à fait ça, forcément, Élise. Et vous, Bertram?
Ben, pour ce qui est important, c'est de donner au candidat, je dirais, sa chance.
Ouais.
Donc, je pense que notre travail d'écoute des candidats et de conseils bienveillants quand nous recrutons, et va dans ce sens-là.
Ouais. Et puis, vous ne vous basez pas sur des cas que vous avez eus avant, vous renouvelez à chaque fois votre état d'esprit.
Ah ben, bien évidemment.
Exactement. Combien des interrogés estiment, selon vous, que les difficultés d'accès au financement constituent un frein majeur à l'entrepreneuriat en France?
Un frein majeur.
Mmh.
Un frein majeur parce que... Bon, alors vous avez maintenant ce qu'on appelle les business angels, qui aident les startups à débuter.
Oui.
Il y a une notion de risque très important pour ces business angels, parce que parfois ce sont de nouveaux produits qu'on espère voir fonctionner dans l'avenir, et on n'est pas du tout sûr de la chose. Et donc pour quelqu'un qui débute, c'est pas évident de se financer.
Exactement. Alors en pourcentage, les difficultés d'accès au financement. Presque ça, c'est 61%, notamment le manque de connaissances business, notamment le manque de connaissances business à 29%, et la peur du risque à 33%. Et c'était le cas pour vous? Est-ce que vous avez fait de l'investissement? Est-ce que c'était une crainte que vous aviez quand vous avez créé votre entreprise?
Non, quand j'ai créé mon entreprise, j'étais jeune, et je l'ai créé...
Oui, en général, on n'a pas peur. Hein.
Ah, non, j'avais pas peur du
c'est
tout.
Clair. On n'y pense même pas, carrément.
Tout, si.
Et vous, Élie, vous avez pensé?
Bah, je pense qu'on se pose forcément la question, on a forcément des peurs, mais il y a un moment où il faut les surmonter pour
sinon, on n'avancera jamais, hein, c'est clair. Exactement. Et est-ce que vous avez bénéficié d'une aide financière? Est-ce que vous avez été accompagné tout au long, du coup?
Dans mon cas, non.
Ouais.
Je me suis débrouillé, j'ai commencé petit.
Ouais.
J'ai grandi beaucoup à un certain moment.
Ouais.
Lors de crises économiques, j'ai dû fermer rebattre pavillon, mais tout de suite après, j'ai recommencé.
Tout à fait. Vous avez trouvé les
et ainsi de suite. Donc, voilà.
Ok. Et vous, Elise?
Ben, on a eu la chance de trouver des investisseurs qui croient en notre projet, mais qui nous laissent aussi le temps de le développer.
Bien sûr. Ils vous ont accompagné également tout au long ou pas du tout? Ils vous ont donné de l'argent et basta?
Non, les investisseurs font rarement ça.
Il n'y a pas quelqu'un, un conseiller qui vous aide? C'est dommage ça, je trouve.
C'est un accompagnement.
Généralement, maintenant, les business angels voient les résultats de l'entreprise, donnent des conseils aux jeunes qui débutent une entreprise, une start-up. Et je crois que c'est bien.
Ouais. Bon. Enfin, quels sont les types de financements privilégiés par les jeunes porteurs de projets, selon vous?
Je dirais le crowdfunding.
Ouais, et vous, Bertram?
Le crowdfunding, c'est très bien. Ce n'est pas toujours évident à monter et à trouver.
Il faut faire une bonne campagne, en plus.
Les banques ont du mal à écouter des nouveaux projets, parfois. Ils considèrent souvent que c'est risqué.
Ouais, ils sont toujours rigides à ce niveau-là.
Donc, les business angels sont très ouverts.
Okay.
Sont plus à même de... Et souvent, beaucoup d'idées de start-up. Ce sont des idées nouvelles. Il faut avoir l'esprit très ouvert pour essayer d'analyser et savoir s'il y a du potentiel dans cette idée.
Ouais, donc, vous dites business angel et Elise, vous dites crowdfunding. Eh bien, c'est les banques à 70% en premier. Qui l'a cru? Même moi, j'étais étonnée.
C'est bien.
L'apport personnel à 61%,
oui.
Le crowdfunding à 38%, donc en troisième position, le financement public à 30% et les business angels à 9% en dernier. Parce qu'ils ont ils ont quand même des côtés
c'est
un peu
stricts. C'est moins connu en France.
C'est moins connu et puis ils sont assez quand même rigides autant que les banques. Mais c'est vrai que les banques en premier, j'étais assez étonnée. Du coup, je me suis dit, tout le monde fuit les banques et pas du tout.
Je vais interroger ma banque.
C'est ça. Quel fut le financement? Bon, vous n'avez pas fait de financement, Bertram, mais qu'est-ce que vous avez fait comme financement ou crowdfunding? Qu'est-ce que vous avez fait, que vous avez opté?
Avec des investisseurs privés.
Investissement privé, ok. On continue, on termine la partie news avec les actus films et séries. Que diriez-vous d'un jeu mobile Harry Potter?
Un jeu mobile?
Ouais.
Je joue rarement.
Moi aussi.
Oui.
Vous avez joué à Pokémon Go?
Non.
Non,
je vois mal Bertram.
C'était un peu avant.
Eh bien, notez que Niantic Labs, derrière le jeu Pokémon Go, a annoncé être en train de travailler sur un jeu mobile intitulé Wizards Unite. Alors, la société a déjà levé 200 millions de dollars en investissement et en collaboration avec Warner Bros. Interactive Entertainment a lancé le label Portkey Games, destiné à la production de jeux sur mobile et console, centré sur l'univers d'Harry Potter, mais à travers de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Donc, en réalité augmentée, le jeu permettra d'explorer des villes et des quartiers, d'apprendre des sorts, de rencontrer des personnages iconiques et de créer des équipes afin de combattre des ennemis puissants. On n'en a pas déjà assez en réalité. Donc, info pour aller récupérer quelques informations, pour s'inscrire et recevoir toutes les actualités jusqu'au lancement, allez sur harrypotterwizardsunite.com et voilà, vous serez de la partie ou pas?
Je sais pas, mais je connais déjà des gens qui vont.
Ouais, c'est clair. Après le phénomène Pokémon Go, on aura le phénomène Harry Potter.
Ouais.
Alors, je ne sais pas s'il reste des fans de Jersey Shore, mais Viacom annonce un retour du casting original sur MTV via une série de télé-réalité intitulée Jersey Shore Family Vacation qui débutera en 2018. Alors, notez que Jersey Shore fut la série la mieux notée de tous les temps sur MTV et la plus rentable avec 9 millions de téléspectateurs par épisode en 2011, qui l'eût cru. Le retour des Jersey Shore fait partie du gros plan du président de MTV, Chris Marquardt, de ramener MTV à ses origines avec de nouveaux programmes plus optimistes afin de toucher les millenniums. Impatient ou pas? Jersey Shore, vous connaissez Jersey Shore, Bertram?
Non,
alors, donc oubliez. Vous manquez rien du tout. Et vous, Elise, vous avez... Non, pas du tout. On va garder les Kardashian.
On n'est pas de la même génération.
C'est ça, non plus. Vous ne gardez pas MTV, vous, non plus. Vous avez regardé MTV à l'époque ou pas?
Non.
Et vous ne regardez pas non plus maintenant?
Oh, je vais le regarder.
C'est vrai. Je ne sais pas, vous avez regardé MTV à l'époque?
Un peu, oui.
Mais au début, oui, il y avait des choses un peu plus intéressantes, il y avait des clips, et puis ils ont commencé sur de la télé-réalité, avec des gens, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc où tout était réuni un peu en vacances, c'était un peu la première version de Secret Story ou je ne sais pas quoi, là.
C'était Love Story?
Ouais, voilà, mais c'était version, genre, on part en vacances, on n'a rien, il n'y a pas de but, en fait, mais on reste ensemble dans une maison, avec des personnes, avec des personnalités extraverties, mais différentes, tout ça pour que ça devienne de la casse. Mais là, Jersey Shore, ouais, vous ne regarderez pas, donc.
J'ai déjà plein de séries en
route. C'est clair. Ouais, les Kardashian déjà aussi dans votre liste ou pas? Ah ça, vous connaissez Verdrome?
Oui, oui, oui.
On va parler séries du coup. Est-ce que vous regardez la série House of Cards?
Oui.
House of Cards.
Un petit peu.
Ouais. Alors j'imagine que vous avez suivi la longue affaire des harcèlements sexuels à Hollywood, hein,
oui.
Qui a également touché la série suite aux nombreuses accusations contre l'acteur principal Kevin Spacey, mm-hmm. viré par la production et Netflix. Mm-hmm. Alors suite mm-hmm. à de nombreuses réflexions sur mm-hmm. le destin de la série qui baissera le rideau avec sa saison 8, mm-hmm. saison 6 prévue pour 2018, mm-hmm. eh bien c'est décidé. C'est la femme de Frank Underwood, Claire, jouée par Robin Wright, qui prendra les commandes de la Maison Blanche. Mmh. Mmh. Un enchaînement logique pour ceux qui ont suivi la fin de la saison 5. Alors, on ne racontera pas, hein, mais la saison 6 comprendra 6 épisodes au lieu de 13 mmh. et se concentrera sur son personnage et les aspects de son nouveau rôle en tant que présidente. Une saison 6 hein, qui s'annonce logique. Hein.
Mmh.
Ouais,
oui.
Vous trouvez que c'est une bonne décision?
Bah, évidemment, mmh. du fait ils ont pris les bonnes décisions, je pense, du fait des nouvelles,
ouais,
ça,
ouais,
c'est sûr.
Et puis sinon,
et
concernant,
en termes d'histoire,
ouais, voilà, c'est ça.
Ça fait aussi sens.
Ça fait aussi sens. Ouais, on voyait depuis la saison 4 qu'elle avait déjà ça en tête, elle voulait exactement.
Mmh.
Donc, ouais, une femme, ça donnera une bonne image pour les prochaines présidentielles américaines.
Voilà. Du coup, leur donner des bonnes idées.
C'est ça, exactement. Et puis, hein, puisque nous sommes vendredi et que c'est le jour de l'arrivée de nouvelles séries et saisons sur Netflix, notez que The Crown débute sa saison 2 ce 8 décembre. Vous regardez The Crown?
Non.
Parfois, très rarement.
Ouais, très rarement. Ouais. La série sur...
Les gens autour de moi le regardent, mais
ouais.
Moi je regarde moins.
Qu'est-ce que vous regardez comme série, Bertram, vous?
BFM TV.
Non, c'est pas...
Les nouvelles.
C'est clair. C'est pas trop votre truc, les séries, non?
Non, pas trop.
Vous préférez les films?
Les nouvelles.
Les nouvelles, plutôt, l'actualité BFM.
Ce qui m'intéresse.
BFM, ouais. Ouais. BFM
ouais.
Quand même, il faut doser hein, là, toute la journée. Hein,
oui, parce oui, que, oui, sinon... mais on me le dit aussi.
Oui, c'est... sinon, c'est réputation. En ce moment, c'est devenu l'idée.
Ouais.
Donc, il
ouais,
faut
ouais,
doser
ouais.
aussi. Hein. Qu'est-ce que vous regardez comme série?
En ce moment, je regarde Sense8.
Ah oui, qui a arrêté d'ailleurs aussi, parce que ça coûtait trop cher sur Netflix
oui.
aussi. J'ai pas encore commencé. Si, j'ai commencé un premier épisode de la moitié. Mais c'est vrai que c'est un peu. Des fois, ça fatigue un peu. Qu'est-ce que vous regardez d'autre?
J'ai regardé aussi House of Cards.
Bien sûr.
Et
The Crown, vous avez regardé aussi?
Non.
Non. Vous regardez beaucoup de séries?
Moins.
Moins. Pas le temps, du coup?
Moins le temps, oui.
Ok, Élise, on va passer à votre partie mesvoisins.fr. Vous êtes fondatrice de mesvoisins.fr, lancé en septembre à Paris, version française d'un site allemand qui est également votre parrain.
Exactement.
Ouais. Vous êtes d'ailleurs située en Allemagne. Comment faites-vous pour diriger des vies de quartiers français si loin?
Du coup, c'est la magie d'Internet.
Tout est possible.
Exactement, tout est possible.
Ouais.
Après, nous, ce qui était important, effectivement, que ça soit une équipe 100% française.
Mm-hmm.
Et effectivement, on revient très souvent en France. On est tous nés en France, donc c'est notre pays. Et de toute façon, on a vocation à se développer dans toute la France.
Ouais.
Et vu qu'on c'est un sujet très local, on ne pourra pas être une personne dans chaque quartier.
C'est vrai.
Donc, on est obligé de centraliser ça.
Ouais. D'accord. Et pourquoi l'Allemagne, du coup? Parce que votre parrain?
Exactement. Ouais. Parce que, du coup, moi, je suis partie là-bas à la fin de mes études pour faire... pour travailler... J'ai travaillé dans le projet allemand.
Ouais.
Et ça m'a vraiment... Enfin, c'est un sujet qui m'a vraiment portée et où j'avais aussi la conviction que ça pourrait marcher très bien en France.
Ouais.
Donc, du coup...
Ouais. Voilà. Voilà. C'est mieux, la vie, là-bas, à Berlin?
Il y a des choses très bien,
ouais.
Mais après, je suis toujours très contente de rentrer.
De rentrer
en France.
À Paris. Ok. Alors, je vous ai connu après avoir reçu ce document dans notre boîte aux lettres. Voilà, un petit document qui présente votre activité, toute simple. Hein. En quoi consiste globalement mesvoisins.fr? Juste retour la communauté de quartier ou bien plus que ça?
Bah, c'est un réseau social de proximité qui permet effectivement de relier les habitants d'un même quartier entre eux. Donc notre but, c'est vraiment d'encourager le partage et les échanges, les rencontres entre les voisins.
Ouais.
On peut donc, il y a deux grands types de familles de fonctionnalités au final. Il y a les fonctionnalités qui sont très pratiques, donc qui permettent de demander par exemple des recommandations. On a beaucoup de gens qui vont arriver dans le quartier, qui demandent quel est le meilleur resto du coin ou chercher un médecin. On peut aussi donner ou demander un petit coup de main. Donc ça peut être quelqu'un qui vient arroser nos plantes quand on est en vacances,
s'occuper
du chat. Ou alors trouver
une
babysitter qui n'habite pas à l'autre bout de Paris justement, mais dans son quartier, ce qui est plus simple.
Pour remplacer la mairie en fait.
Et c'est aussi donc prêter des objets. Donc ce qui marche très bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prêtent une perceuse comme ça pour faire un après-midi de bricolage pour accrocher ses 4x4. On n'a pas forcément besoin d'acheter une nouvelle perceuse.
C'est vrai.
Ou ce qui marche très bien en ce moment, c'est aussi les appareils à raclette. Effectivement, pareil, voilà, pour une soirée, on peut prêter son appareil à raclette.
Et vous proposez bien plus que ça, vous proposez aussi des rencontres.
Exactement, donc ça c'est toute la partie très pratique. Et ensuite, on a beaucoup de fonctionnalités sociales. Donc, on peut créer des groupes pour retrouver des voisins qui ont des intérêts communs. Un grand classique, par exemple, sur notre plateforme, c'est les groupes des sportifs du quartier. On a des gens qui vont se rencontrer, qui donc soit pour se retrouver pour faire un footing dans le parc à côté de chez eux. On a pas mal de filles aussi qui se motivent pour aller à la salle de sport ensemble.
C'est bien ça,
Voilà. Et on peut aussi donc créer des événements. Et on a eu déjà beaucoup de voisins qui vont organiser vraiment d'eux-mêmes des apéros entre voisins, qui vont proposer des dates et qui se rencontrent dans un café pour...
Est-ce que ça change du un petit peu... C'est quoi ce festival, vous savez, la rencontre entre les voisins qui se passe à peu près au printemps?
La fête des voisins.
Oui, la fête des voisins, voilà, c'est ça.
Bah, effectivement, la fête des voisins, c'est une initiative qui est une fois par an et où les gens, en général, se disent c'est super sympa, en fait, de connaître les voisins.
J'ai jamais vu ça organisé quelque part.
Exactement. Et nous, au final, on propose la fête des voisins toute l'année.
C'est clair. Ça, c'est cool, ça. Pas besoin d'un rendez-vous fixe. Suite à notre sondage du Lunch Show, 25% ont répondu qu'ils participent de temps en temps à la vie de leur quartier, contre 75% qui ont répondu non et 0% de oui, forcément. Qu'est-ce qui est à l'origine du problème du manque de communion dans les quartiers?
En fait, nous, on est parti du constat qu'aujourd'hui, on est connecté avec nos amis des quatre coins de la planète, quasiment 24 heures sur 24. On peut parler Singapour, New York, etc. Mais en général, on connaît pas ses voisins de palier et encore moins quelqu'un qui habite dans notre rue, etc. Et on s'est dit que c'était dommage au final parce que nos voisins sont pleins de ressources au final. Et du coup, ce qu'on a voulu faire en fait, c'est créer des quartiers beaucoup plus dynamiques et conviviaux pour permettre de recréer du lien. Au final, là, on passe le plus de temps, c'est-à-dire chez soi, dans sa rue, dans son quartier.
C'est vrai. Et puis on sort beaucoup de son quartier pour aller ailleurs, aller dans les cafés ailleurs, dans les restaurants ailleurs. Après, c'est vrai, ça dépend aussi du quartier. S'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de vie dans le quartier, s'il n'y a pas de restaurant, s'il n'y a pas de... Donc c'est difficile. Donc c'est vrai que les gens ont tendance à aller dans les quartiers populaires, etc. Vous vivez beaucoup dans votre quartier, vous? Vous avez une vie de quartier?
Moi, je vis dans un petit village, j'ai une maison. Et justement, ce que dit mademoiselle est très intéressant dans le sens où j'ai eu pendant des années un très bon voisin et on allait... deux fois par semaine prendre un apéritif chez eux et il y avait une très bonne relation et puis ce monsieur est parti, il a vendu sa maison et il est allé s'installer à Marseille. Et sont arrivés des nouveaux voisins qui, la première chose qu'ils ont fait, c'est monter les murs. Alors on a été un petit peu étonnés, on n'a rien dit et plus de relations, plus rien. Et puis un beau jour, leur chien s'est échappé de chez eux, chez nous. Et il fallait bien qu'ils viennent nous trouver. Donc ils ont sonné à la porte et on a ouvert naturellement et on a commencé à parler. Mais sinon, il y avait un mur.
Merci le chien. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on fait. Moi, par exemple, j'ai des voisins dans un immeuble. On s'est jamais rencontrés, ils sont partis, on n'a jamais dit quoi que ce soit. Et puis, je trouve ça dommage aussi que, par exemple, vous avez des gens qui déménagent, qui arrivent, qui ne se présentent pas, ou bien ceux qui partent, et puis hop, ils sont partis, ils ne disent pas au revoir, hallucinant.
Je pense qu'on a perdu en fait ce lien, et on peut aussi avoir, je pense, peur au final, vu qu'on a perdu l'habitude de déranger, et d'aller sonner chez quelqu'un pour demander même. comme un œuf, on n'ose plus en fait. Et c'est pour ça qu'en gros, on a décidé de créer cette plateforme, parce que les gens sont plus facilement à même de se parler en ligne. Et donc l'idée, c'est que les gens retrouvent ce contact via la plateforme en ligne, mais qu'après, ils se rencontrent dans la vraie vie. C'est pas de chatter jusqu'à 3h du matin avec ses voisins, mais juste de faciliter cette rencontre via une plateforme en ligne, et ensuite pour qu'il se passe des choses dans la vraie
réalité.
C'est une très bonne idée.
C'est clair. C'est marrant, on a un immeuble, on a un palier, on est si proche et si loin, c'est hallucinant. Moi, je me rappelle, ma voisine, j'ai tenté des approches, voilà, en apportant par exemple quand c'est des galettes, ah, j'ai une galette, je vais pas la manger toute seule, hop, je lui apporte, mais jamais il y a eu de ce rapprochement. Elle était malade, je lui apportais des trucs pour que c'est guérisse, ou je savais qu'elle était malade, j'envoie un petit texto, mais jamais. Et là, tu te dis, mais c'est si compliqué. C'est pas chercher l'amitié, c'est se dire, on est voisins, je sais pas, moi, si t'as besoin, et vice versa, on sait jamais ce qui peut arriver. Je trouve ça vraiment dommage. Comment ça fonctionne? On arrive sur la plateforme, il faut s'inscrire, c'est ça?
C'est ça, donc il faut s'inscrire avec son vrai nom et son adresse. On a décidé simplement le vrai nom parce que sur Internet, on sait comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Et le fait de s'inscrire avec sa réelle identité, ça permet direct de créer un climat de confiance sur la plateforme. Et les gens ont des échanges beaucoup plus respectueux puisque on parle en son nom, donc on ne va pas insulter son voisin, justement.
Mais il faut s'inscrire par quartier.
Exactement. Et ensuite, une fois qu'on rentre son adresse, on est attribué en fait à son quartier, qui est un ensemble de blocs. En général, on a des quartiers d'environ 5000 foyers.
D'accord.
C'est la bonne taille pour avoir à la fois encore cet esprit local, parce que si on prend l'arrondissement, par exemple, à Paris, c'est beaucoup trop gros. Et en même temps, où il y ait suffisamment de personnes pour que ça puisse être actif.
Et après, donc on s'inscrit. On peut s'inscrire aussi par les réseaux sociaux ou pas? Ou il faut mettre vraiment c'est une nouvelle inscription?
C'est une nouvelle inscription, oui.
D'accord, ok. Et après, qu'est-ce qui se passe? Hop, tout est ouvert. C'est le paradis.
Ensuite, après, l'idée, c'est vraiment que chacun participe comme il veut, quand il a le temps, en fonction de ses envies, à son échelle. Donc, c'est totalement volontaire. Il faut souvent que y ait les premières personnes qui se lancent. C'est comme un mariage où il faut qu'il y ait les premières personnes qui aillent sur la piste de danse avant tout le mariage se mette à danser.
C'est clair.
Mais du coup, oui, c'est vraiment chacun sur la base du volontariat. Et ce qu'on a eu beaucoup comme retour de voisins, qui ont essayé, ils nous ont écrit en osant qu'au final, ils étaient surpris à quel point c'est sympa, en fait,
de
se donner des petits services, qu'on a autour de nous des gens sur qui on peut compter.
Tout à fait.
Et ça crée une autre ambiance, on voit son quartier autrement.
Tout à fait.
C'est clair.
Mais c'est amusant, je vois votre affiche, là. Mohamed de la rue Pelleport. Effectivement, on habite rue Pelleport, on ne connaît personne dans la rue Pelleport. Et là, la possibilité de savoir des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, c'est très intéressant.
Exactement, si près et si loin en même temps. Vous comptez actuellement 7000 utilisateurs ou bien ça a augmenté depuis?
Ça a augmenté depuis.
Super.
On a plus de 10 000 utilisateurs actifs à Paris.
Ouais.
Et notre communauté ne cesse de grandir de semaine
en semaine.
Ça monte
vite, on s'est eu il y a à peine un mois, et 7000 utilisateurs, c'est hallucinant.
Chaque semaine, montre aussi que c'est une véritable attente au final, parce que ça prend vraiment, et les gens s'inscrivent et participent aussi beaucoup, il se passe beaucoup de choses sur la plateforme.
Et puis il y a une opération que vous avez lancée, on a vu récemment, cette semaine, pour les personnes qui sont... On parlait de si proche et si loin en même temps, les personnes qui vont célébrer les fêtes de fin d'année. Voilà, si vous êtes seul, hop, il y a un moyen, surtout les personnes âgées, c'est ça?
Exactement. En fait, ce qu'on veut de toute façon, c'est retisser aussi à travers tout ce lien de voisinage, retisser les liens entre les générations, la mixité sociale, ramener les personnes isolées dans la société.
Oui.
Et du coup, on a lancé une opération de Noël solidaire pour encourager les familles qui ont encore une place à leur table de proposer éventuellement à un voisin qui est seul pour Noël.
Ou on peut toujours créer, on peut toujours rajouter une assiette.
On a toujours un peu de place et suffisamment à manger en général.
Oui, parce que les fêtes, c'est pas à manger, c'est être ensemble.
Exactement. Ou alors, sinon, proposer à des personnes seules de se retrouver ensemble pour passer les fêtes ensemble. Effectivement, pour ça, le voisinage, c'est l'échelle idéale pour...
C'est une bonne idée, super. Et donc, 10 000 utilisateurs à ce jour, quel est votre objectif final avec tous ces utilisateurs-là? Ça grandit, tous ces... personnes.
Alors, notre objectif final, c'est que tous les Français soient inscrits sur mesvoisins.fr. Non, donc on s'est vraiment développé à Paris. On va continuer de développer notre communauté. Mais l'idée, c'est ensuite d'aller dans toute la France, qu'il n'y a pas que les Parisiens qui ont besoin de liens avec leurs voisins. Donc, c'est vraiment dès l'année prochaine, on va se développer à Lyon, à Toulouse et dans tout le reste de la France.
D'accord.
Et on souhaite aussi créer des partenariats avec les villes et les associations locales. Donc, leur faire les intégrer également à notre plateforme, parce qu'elles font aussi partie intégrante de la vie de quartier.
C'est ça.
Et ça peut amener encore.
Et la mairie aussi, pourquoi pas.
Exactement, les mairies pour aussi la démocratie participative.
Et puis, s'il y a des gens qui vivent des difficultés, c'est bien qu'il y ait des personnes qui puissent les soutenir. Si elles ne peuvent pas se rendre à des endroits où, par exemple, à la mairie, qu'un groupe dise voilà, cette personne, elle a des difficultés, nous, on vient pour la représenter. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? C'est vraiment de la communion, quoi.
Exactement.
Bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'en pense beaucoup de bien. Je vous parlais tout à l'heure du danger de la digitalisation qui risque de, faire en sorte que les gens soient jugés à partir de logiciels. Et là, c'est tout à fait le contraire.
C'est, vrai,
c'est l'aspect positif de la digitalisation. C'est réunir des gens, leur apporter du confort, de l'aide, de la compréhension.
Exactement.
C'est l'objectif tout qui devrait être suivi.
C'est une très bonne idée. Mesvoisins.fr pour vous inscrire, gratuit en plus.
Exactement. Soit sur le site internet, sinon il y a une application pour iOS ou Android.
Super.
Donc, très rapide.
Super. Merci beaucoup. Élise, on va parler de nos bouts de lecture. Quel est votre bout de lecture,
Alors,
Bertram?
Moi, je vous amène un livre qui s'appelle Boris... Psychothérapie de Dieu.
D'accord.
Voilà, de Boris Cyrulnik.
Ok.
Alors, Boris Cyrulnik est un neuropsychiatre très connu, qui écrit beaucoup de livres et qui parle de la résilience.
D'accord.
Vous avez déjà entendu parler, peut-être. La résilience, c'est la capacité, par exemple, dans un métaux, parce que ça s'applique à beaucoup de produits et d'idées, un morceau de plastique qui reprend sa forme après qu'on l'ait écrasé, ou une carrosserie d'automobile qui, après un choc, se remettrait en position. La résilience, c'est au niveau psychologique, c'est après un stress important, un traumatisme, pouvoir revenir sans trop de difficultés à la situation antérieure. Voilà. Alors ça, c'est le psychologue Boris Cyrulnik.
D'accord.
Par contre, il a écrit un livre sur la psychothérapie de Dieu.
D'accord.
C'est une explication de comment on peut être amené à avoir à pratiquer une religion dans la vie, le milieu familial, l'importance du milieu familial, et aussi, ce qui est intéressant, c'est un début d'explication de pourquoi il y a des terroristes.
D'accord.
Des gens qui transforment la religion en un acte qui n'est pas qui ne correspond pas à leur religion. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant, qui n'est pas difficile de lecture, et très intéressant pour tout le monde.
D'accord. Quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, que
ça n'a rien d'un appel à la religion.
Non.
C'est une explication. C'est une explication de comment on peut devenir croyant.
D'accord.
Ou aussi pourquoi on n'est pas croyant.
D'accord. Moi, je me suis dit en lisant ce titre, c'est comment utiliser Dieu et ses normes pour notre vie du quotidien.
C'est ça.
Voilà. Vous avez aimé, vous?
Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas terminé.
D'accord.
Je suis en train de le lire.
Ça vous motive? Ça change quelque chose, la façon de penser, déjà, ou pas?
Ça me cultive.
Ok. Faut aller de là, de la culture. Il a une bonne image de Dieu, ce personnage, cet auteur, ou pas?
Ah oui, c'est pas du tout négatif par rapport à la religion.
D'accord, bien sûr, ok.
Non, c'est une explication scientifique de comment on devient religieux ou pas.
Ah, scientifique?
Bah oui,
que
la
religion est scientifique.
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Parce que ça part de l'enfance, de la naissance, et comment on arrive petit à petit, tout au long du processus de la vie, à aborder la religion.
D'accord, ok.
Et c'est scientifique.
Ok. Ah, moi, je considérerais quand même aux auteurs, et à vous, justement, vous lisez ce livre, à ne pas considérer trop je dirais pas la religion, parce que c'est trop des normes humaines, mais je dirais la relation avec Dieu comme quelque chose de scientifique, mais plus quelque chose de cœur, en fait.
Ben, ça l'est automatiquement, d'abord.
Oui, bien sûr, avant tout. Bon, on est d'accord, alors. Élise, autre bout de lecture.
Oui, alors, le livre que je vais vous présenter, c'est « Sauvage par nature » de Sarah Marquis. Je ne l'ai pas ici, parce qu'il était tellement bien que j'ai déjà prêté.
Super. On nous confirme, alors, c'est très bien comme ça.
Donc, Donc c'est le récit en fait d'une aventurière suisse qui est partie pendant 3 ans. Elle a marché seule de Sibérie jusqu'en Australie.
D'accord.
Et elle raconte en fait dans ce livre tout son chemin.
Toute seule, waouh.
Oui, toute seule. Ouais. Donc tout son chemin où elle décrit les paysages de nature pure qu'elle traverse. Ouais. Ses rencontres, des fois elle fait des face-à-face avec des animaux sauvages. Elle fait des rencontres très étonnantes avec notamment des hommes en Mongolie qui ont une culture complètement différente de la nôtre et on a du mal à se repérer. Donc elle raconte voilà, toutes ces choses magnifiques, mais aussi la faim, la solitude, la douleur physique forcément, le froid. Et c'est, voilà, c'est un chemin de 20 000 km qui est à la fois extérieur, parce qu'on voyage beaucoup, mais aussi très intérieur, puisqu'elle partage toutes ses pensées et son chemin intérieur au final. Et donc, c'est un livre très, très inspirant.
C'est une histoire vraie, hein ?
Oui, oui, c'était il y a quelques années.
D'accord.
Et c'est voilà, un récit très inspirant, très, très beau, et qui donne vraiment envie d'empiler ses chaussures de marche, son sac à dos, et de partir à l'aventure.
C'est bien parce qu'elle prépare mentalement les gens, parce qu'au début, quand on fait ce type de voyage, on arrive, on fait « Ah, oh, c'est beau, on regarde la nature », après il y a la souffrance, la solitude, et après on retire quelque chose de bénéfique en se disant « Bon, finalement, c'est pas si mal que ça, donc ça s'appelle ».
Sauvage par nature,
d'accord,
de Sarah March.
Super, merci. Alors moi, mon bout de lecture, c'est celui-ci, Les Jackson, notre histoire. C'est écrit par les frères Jackson et par l'auteur, journaliste et producteur Fred Bronson. Alors c'est 320 pages qui racontent 5 grands chapitres de la vie d'Eddie Jackson, hein, qui a commencé dans les années 60, 2300 Jackson Street, dont on sait que c'est leur domicile, jusqu'à leur tournée Revival, hein, sans Michael Jackson, bien entendu. Hein. Donc, ça détaille en chronologie illustrée et en photo. Voilà, plusieurs années de leurs histoires. Vous avez des anecdotes de toute la famille Jackson, des citations au début de chaque chapitre par des différents acteurs clés de leur carrière également. Voilà, de belles photos sur voilà les petites citations. Vous avez ici de Jackie Jackson, exactement. Vous avez des photos, vous avez des histoires, de la chronologie. Vous avez plus de 50 années d'histoire de musique, d'archives, voilà, sur la vie des Jackson. Pas mal, hein ?
Chouette, ouais.
C'est toujours un aspect à découvrir en plus sur les Jackson.
Des très belles photos.
Des très belles photos. Et puis aussi de la motivation, du coup. Parce que les personnes qui se disent « Oh, j'ai envie de certaines carrières », pas forcément divertissement, hein, mais se dire voilà, des personnes qui venaient nulle part, qui ont une ambition et qui ont travaillé en famille et qui sont arrivées jusque-là pour influencer toute tout le monde entier, hein. Voilà, je vous laisse regarder. C'est Les Jackson, notre histoire. C'est disponible aux éditions Duchesne. 35 euros. Voilà. Vous regardez ce type de livre en général ou vous êtes plutôt... Vous, qu'est-ce que vous lisez ?
Je ne sais pas si j'achèterais, mais, mais le livre est intéressant et beau. Et, oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous lisez en général ? Plutôt des livres psychologiques, des thèses ?
Oui,
des...
souvent.
Des romans un peu ?
Oui, j'en lis un en ce moment qui est... s'appelle Eddie Bellegueule.
Ah oui, exact.
C'est intéressant.
Ouais.
C'est un garçon de Picardie qui a débuté dans des conditions très difficiles et qui s'est amélioré tout au cours de la vie. Je crois qu'il est même arrivé à l'école normale.
Ouais.
Il est issu d'une famille très, très pauvre et en grande difficulté. Ouais. On l'a maltraité à l'école.
Ouais.
Et il sort de cette situation pour devenir quelqu'un de tout à fait honorable.
Comme quoi, on peut tous s'affranchir de notre... Oui, on a eu une émission estivale qui s'appelle Bout de lecture, justement.
Oui, oui.
Et on invite des personnes à partager, pas forcément des auteurs, leurs livres estival. Et justement, on avait un invité qui a parlé de ce livre qui l'a beaucoup aidé à se développer également. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez habituellement en général, Élise ?
Plutôt des romans aussi.
Ouais, des romans aussi. Ouais. En hiver, on a des types de lectures spécifiques. C'est vrai qu'en hiver, je préfère plus les romans, moi.
Des romans un peu feel-good aussi.
Oui, voilà, exactement, pour se réchauffer au coin du feu, etc.
Exactement.
Oh, super. Qu'est-ce que vous faites ce week-end ?
Je reste chez moi devant un feu de cheminée.
Ouais. Avec un bon livre à terminer.
Voilà, c'est ça.
Et vous, Élise ?
Je suis allée boire du vin chaud au marché de Noël.
Ah, voilà, déjà. Ah, bon. Ici ou bien où ça ? Vous avez une région spécifique ? À Paris ?
À Berlin.
À Berlin. Déjà oh, ok, super. Plan du week-end, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, vous avez la plateforme française de financement Ouloul, justement, qui a inauguré le 7 décembre sa nouvelle boutique dans le Sentier. Alors, ce lieu hein, dédié à l'innovation participative prévoit d'organiser de nombreux événements dans l'année, de présenter différentes histoires de crowdfunding. Voilà, rendez-vous au 19 rue de Cléry, c'est dans le second arrondissement de Paris. Et puis, quelques plans de la semaine, seconde édition de l'Etsy Made in France, un pop-up store où vous pouvez rencontrer les créateurs situés près de chez vous, encore un de la communauté. Ce sont les 9 et 10 décembre dans 16 grandes villes à la découverte du savoir-faire de près de 500 créateurs. Et en Ile-de-France, ce sont 80 créateurs qui se retrouvent au WeWork, situé au 33 rue Lafayette. Entrée libre et plus d'infos sur etsy.com/medlocal/fr. Info, écoutez sur Même Radio, émission lecture de décembre avec Julien Leclerc qui réédite chronique d'un salaud de patron et révèle le quotidien d'un chef d'entreprise. Et dans le programme Mastermind, les invités des émissions de Même Radio donnent leur définition du fameux jargon travailler dur. On a des définitions différentes.
Pour gagner plus.
Voilà, exactement. C'est pour vous. Et vous, Elise, travailler dur.
Oui, mais avec plaisir.
Voilà, exactement. On se retrouve donc le 22 décembre pour la dernière de l'année sur Même Radio, un spécial Tendance Beauté où nous ferons le point conseil peau et cheveux en cette saison hivernale avec la marque de cosmétiques Xixi qui inclut du contenu digital à ses produits et la marque capillaire Activilon qui va nous présenter ses nouveautés en termes d'hydratation. Envoyez vos questions beauté à lunchshow@masterminderentertainment.com ou sur les réseaux @mastermindernt. Retrouvez le Lunch Show, les autres émissions de Même Radio sur iTunes, TuneIn, Acast et Stitcher, ainsi que les extraits vidéo sur nos pages, une autre page YouTube, MMTV, production dès lundi. Voilà, merci beaucoup Bertram pour ces questions de recrutement. On fera plus attention la prochaine fois grâce à vous. Merci Élise, plus de communauté. On va aller visiter plus et se réinscrire sur mesvoisins.fr, participer à notre vie de quartier et puis se rendre un peu utile aussi. Voilà. Passez une bonne après-midi, un bon week-end et on se retrouve à bientôt pour votre prochaine émission sur Même Radio.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.